Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Vous êtes sur Radio Kaléidoscope et vous écoutez l'émission Au ras des rues. Nous sommes mercredi 10 février et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons autour de la table Antoine.
Bonjour.
Marie-France.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Et notre invitée Clémentine de Clémentine Tricou de l'association ID, qui est une association tenue par le Master Coopération Internationale et Communication Multilingue. Et donc ID veut dire Initiative des étudiants pour l'échange et la solidarité. Donc
bonjour.
Clémentine, tu nous parleras d'une projection qui va avoir lieu sur le village olympique, mais on y reviendra plus tard.
Oui.
En attendant, je vous propose donc de vous rappeler les podcasts Facebook et mail où vous pouvez nous retrouver, critiquer les émissions, nous proposer des sujets.
Donc je rappelle le mail, auraderues@lecrieur.net. Le site pour les podcasts, c'est www.lecrieur.net. Et ensuite, pour le Facebook, c'est la page Aura des rues-RKS97FM.
Merci Antoine. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons l'agenda de la semaine. Ensuite, l'actualité du Crieur est complétée sur plutôt le village olympique par Marie-France. Nous aurons l'interview avec Clémentine de l'association ID. Puis nous écouterons la suite de l'interview d'Elisabeth Papazian, directrice du théâtre Prémol. Et enfin, nous aurons un retour sur les réunions autour du CROUS et sur le village olympique et du projet qui se développe sur ce lieu. Et enfin, la rubrique des enfants de Madame Rutabaga.
Voilà, beau programme.
Un beau programme.
Et la musique ?
Et la musique qui sera une sélection plutôt italienne aujourd'hui. Enfin, totalement italienne. Benjamin, fais-nous l'agenda, s'il te plaît.
Oh oui. Alors, l'agenda du Crieur de la Villeneuve, le jeudi 11 février, il y aura un repas macédonien. Ça sera à partir de midi au local d'Arc-en-Ciel. C'est au 80 Place des Géants. Arc-en-Ciel, c'est une association de coopération franco-maghrébine, mais aussi sur d'autres cultures. C'est pour ça qu'ils organisent un repas macédonien. C'est 6 euros pour les adhérents et 7 euros pour les non-adhérents. Et donc, c'est jeudi 11 février à partir de midi. Dans le reste de l'agenda du Crieur de la Villeneuve, vendredi 12 février, à partir de 18h15, ça sera la maison des habitants des Baladins. Il y aura la pièce de théâtre « Et alors à l'école, ça va ?» une pièce de théâtre créée par les parents d'élèves de l'école Jean Racine et mise en scène par Ali Djidali, qui est un comédien et metteur en scène assez connu, qui est installé à la Villeneuve. Donc ce sera vendredi 12 février à 18h15 à la Maison des Habitants des Baladins, au 31 Place des Géants, et l'entrée est gratuite. Et enfin, pour les jeunes qui nous écoutent et pour les jeunes qui ne nous écoutent pas, les espaces jeunesse des Baladins et de Tesserre organisent une semaine d'ateliers médias. Ça sera du 15 au 19 février à l'espace jeunesse Tesserre et ça sera animé par l'association Abord Perdu qui est installée à la Villeneuve sur la place des Géants. Les inscriptions sont à faire à l'espace jeunesse Baladins et à l'espace jeunesse Tesserre. L'espace jeunesse des Baladins est situé sur la place des Géants et l'espace jeunesse Tesserre est situé dans le quartier Tesserre, avenue Paul Coca. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Pour l'agenda du Crieur de la Villeneuve.
Merci. Quelqu'un a des événements à compléter ?
Un événement sur le village olympique qu'on attendait depuis 6 ou 7 mois. C'est la réparation de la borne escamotable de l'avenue Esmonin qui donne l'entrée ou qui interdit l'entrée aux véhicules dans le village olympique à partir de la grande avenue qui est à côté de Carrefour. Voilà, on attendait cette réparation qui traînait, et puis finalement, il y a eu des mobilisations d'habitants. On a essayé de retrouver qui était le coupable dans cette affaire. On a contacté la mairie. Finalement, c'est la métro qui est responsable de la voirie. Donc, on a contacté le responsable, l'élu en charge de la voirie, qui est le maire de Poisat, par ailleurs. Et donc, le nécessaire a été fait et cette borne fonctionnait, en tout cas, il y a quelques jours. Je pense, j'espère qu'elle fonctionne. Les problèmes qu'il y avait à cause de cette détérioration, c'est que les voitures pouvaient rentrer facilement et venir se garer dans le village olympique, rouler éventuellement très rapidement, alors que c'est une zone piétonne où il y a des enfants, où il y a des gens qui circulent beaucoup... en marchant, ça posait des problèmes. Voilà, donc ça devrait être résolu.
Merci Marie-France. Benjamin, est-ce que tu enchaînerais sur l'actualité de la Villeneuve ?
Eh bien, volontiers. Alors, dans les derniers articles publiés sur le site, on a une tribune d'Alain Manac, donc pour préciser quand même, qui est co-président de l'association Villeneuve Debout, qui organise plein de choses dans le quartier de la Villeneuve et qui est par ailleurs aussi membre du bureau du CRIR de la Villeneuve. Donc il nous a écrit une tribune, une supplique en fait, pour ne pas démolir l'ancien Collège des Saules. Donc le Collège des Saules actuel est situé en bordure de la Villeneuve en fait, à la limite des communes de Grenoble et des Bains. Et le nouveau collège est en cours de construction, juste en face en fait. Morgane d'ailleurs, tu avais visité le nouveau collège en cours
avec
de construction.
Avec une équipe de professeurs qui, ont leur présenté leurs nouveaux locaux.
Et donc le nouveau collège est censé ouvrir à l'automne 2016. Et toute la question est de savoir que va devenir l'ancien collège. Donc certains pensent le détruire. Et donc Alain Manac a écrit une tribune justement contre cette destruction en disant qu'on pouvait utiliser cet espace en le rénovant, bien sûr, pour organiser, pour installer des commerces ou des locaux d'associations. Pour l'instant, il n'y a aucun projet de la part des deux mairies parce que donc, le collège actuel est sur les deux communes. Mais on va espérer que cette tribune fera réagir quelques élus.
Le Conseil citoyen indépendant, je rajoute, des quartiers sud, est aussi préoccupé par cette question. Et il y a des idées qui sont suggérées pour faire quelque chose avec cet espace.
On espère que toute cette mobilisation va aboutir. Donc voilà, et puis sinon, bientôt, vous pourrez lire dans le CRIR une interview de deux jeunes danseurs de la Compagnie des Mutins qui sont installés à la Villeneuve et puis qui ont réalisé un spectacle de danse il y a 15 jours. Donc voilà, deux interviews bientôt à lire dans le CRIR.
Merci Benjamin. Donc, on va faire une première petite pause avec une musique du chanteur Deandré. Donc, Deandré, en fait, c'est le Brassens italien. Il est né à Gênes, Il est né à Gênes le 18 février 1940 et il est mort en 99 à Milan, il me semble. Donc, dans ses chansons, Deandré parle exclusivement des exclus, des rebelles et des prostituées, un peu comme Brassens d'ailleurs. Et il a même repris tout un tas de chansons qu'il a traduit en italien de Brassens. Il est plutôt d'inspiration anarchiste, il a eu 40 ans de carrière et 13 albums à son actif. Et il valorisait aussi les langues traditionnelles parce que bon, vous savez tous qu'en Italie, l'italien officiel est assez peu, en fait, assez peu utilisé dans le quotidien. Voilà, donc cette première chanson se nomme Bocca di Rosa, ça veut dire bouche de rose, et c'est l'histoire d'une femme dans un village qui aimait beaucoup les gens. Voilà, je vous laisse écouter.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Mm-hmm.
che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Voilà, c'était Bocca di Rosa di De André. Je vais donner la parole donc à Marie-France et Clémentine Tricou de l'association ID. Clémentine, on t'a invité aujourd'hui spécialement parce que ce soir, il y a la projection du film La Terre sous nos pieds à l'auditorium de la MJC Prémol à 19h, l'entrée étant gratuite. Et du coup, c'est pour parler aussi de cette initiative et de... Voilà, je te laisse la parole, Marie-France.
Oui, donc,
oui merci.
Il y a trois associations qui sont partenaires dans cette projection. L'association ID, dont Clémentine va nous parler. L'association Nuestra America, Notre Amérique, qui est une association de solidarité avec l'Amérique latine. Et puis l'association Maison Latina, qui est aussi une association plus culturelle sur la culture latino-américaine, voilà, qui est partenaire également. Oui. Voilà, donc Clémentine.
Bonjour, alors
bonjour.
Moi je représente donc l'association ID, l'initiative des étudiants pour l'échange et la solidarité. Et donc je viens vous présenter donc le projet qu'on a mené avec notre association depuis l'année dernière, à peu près en janvier 2015, on a commencé. Et donc, c'est un projet de reportage sur la thématique de l'exploitation minière dans les Andes péruviennes.
C'est un projet qui a été primé, je crois.
Pour l'instant, on a reçu énormément de partenariats, oui, intéressants. Plusieurs projections ont déjà eu lieu sur Grenoble. Voilà, on a aussi des projections qui vont avoir lieu à Lyon. Et puis, on est très heureux d'avoir une projection ce soir à la MJC Prémol. Voilà, donc pour avoir une petite idée un peu plus claire du projet, donc le reportage, on l'a créé en fait des deux côtés de l'Atlantique, et c'est ça qui fait notre spécificité en fait. On a, lors de notre voyage au Pérou avec un autre membre de l'association...
Donc c'est sur l'exploitation des mines au Pérou?
Oui.
L'exploitation minière en général, le thème du documentaire?
Oui. Plus en général, c'est ça. En fait, on a pris l'exemple de l'exploitation minière au Pérou pour ensuite parler en fait plus en général des impacts sociaux, économiques et environnementaux que peuvent avoir l'exploitation minière dans le monde. Et en fait, donc, on a créé ce reportage des deux côtés de l'Atlantique avec l'idée en fait de mettre les gens dans la peau de quelqu'un qui se pose des questions tout simplement sur l'extraction minière. Comment ça fonctionne, quels sont les impacts sur les populations locales, sur l'environnement, sur l'eau, etc. Et donc, en fait, on va avoir deux personnages, un personnage français et un personnage péruvien, qui vont aller poser des questions à des experts, à des paysans, à des manifestants qui savent et qui vont répondre, témoigner sur cette thématique-là. Et donc, c'est un voyage un petit peu entre les deux pays auxquels on vous invite à venir partager avec nous. Et puis ensuite, ça sera suivi d'un petit débat dans lequel on pourra échanger sur cette thématique.
Avec un petit buffet.
Voilà, et un petit buffet.
Voilà, pour faciliter les échanges.
Et, voilà. Et du coup, donc... comment, enfin là, est-ce qu'il y a des initiatives de, enfin vous avez rencontré des mouvements, vous avez sur ces questions-là quand vous êtes parti au Pérou?
Oui, alors du coup en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est qu'en fait le reportage a été créé des deux côtés, donc dans les deux pays, mais il n'y a pas eu de voyage en fait, on n'est pas parti filmer sur place, c'est seulement l'équipe péruvienne qui a donc filmé sur place, qui a fait des interviews, etc. Nous on a fait la même chose en France.
Et l'équipe péruvienne, vous la connaissiez avant?
Voilà, on les avait rencontrés en fait lors de notre voyage en 2013. Et ils ont voulu se joindre à nous dans le projet. Et on a fait quelque chose de sympa avec le montage qui a été fait en France. Et ensuite, on a quand même eu un de nos amis péruviens, Pépé, qui est venu lors des deux premières diffusions à Grenoble pour participer un peu et puis symboliser aussi cette collaboration en fait autour du projet.
Et comment ça s'est passé, ces deux premières projections à Grenoble ?
Eh bah, super bien, on a eu des très très bons retours, c'était super.
À la Maison de l'Internationale, la première ?
Voilà, avec une première le 29 octobre à la Maison de l'Internationale,
oui,
où il y avait à peu près 80 personnes, vous y étiez tout à fait. Donc c'était une belle première avec M. Macrae, qui était l'adjoint au maire aux Solidarités Internationales, qui était présent. Et ensuite, on a eu deux autres projections, une à la Maison de la Nature et de l'Environnement, avec une très belle intervention de Alain Deneau, qui est un spécialiste de l'extraction minière et notamment des entreprises canadiennes, qui était là et qui a fait un témoignage. Et ensuite, on a eu une dernière projection qui était sur le campus, destinée vraiment aux jeunes. Et à la suite de cette projection, on a monté un jeu de rôle dans lequel les jeunes pouvaient se trouver dans la place, dans la situation des différents acteurs du conflit pour vraiment comprendre quelles étaient les problématiques en interne. Voilà. Et jouer le rôle des personnages.
D'accord. Des personnages, du patron jusqu'à l'ouvrier.
Tout à fait, oui. Voilà, les groupes de paysans, etc.
Et alors, lors de la COP21, il y a des choses qui ont émergé sur ces questions-là. Il y a des... Est-ce
que... Alors, sur l'extraction minière en elle-même, non, pas... Enfin... Pas à ma connaissance, on a appris des grands projets qui ont quand même été acceptés, notamment au Brésil. Ce projet de création de barrages, c'est pas vraiment lié, mais bon, c'est un petit peu dans la même thématique. Mais après, par contre, ce qui est assez intéressant et qui est un petit peu lié, c'est que la COP21 a énormément fait parler des populations autochtones du Pérou, qui sont elles-mêmes affectées par l'extraction minière et qui finalement réussissent petit à petit à faire entendre leur voix. Et elles étaient énormément présentes à Paris. Et on a même un groupe qui est venu à Grenoble, une communauté péruvienne autochtone, qui est venue à Grenoble pour témoigner aussi sur ces thématiques-là. Donc très intéressant.
Oui, plus d'accord. Concrètement, pardon, c'est la mine de Yanacocha, où il y a plusieurs localités dans le coin. La mine, c'est une mine d'or.
Ça. Le reportage est focalisé d'abord sur cette mine-là, qui se situe dans le nord du pays, dans le nord du Pérou, dans les Andes et dans la région de Cajamarca, qui est une région avec énormément de ressources minières, notamment de l'or. Ouais.
Et c'est des entreprises péruviennes qui exploitent les mines ou c'est des entreprises étrangères en fait ?
Étrangères. Alors dans ce cas-là, c'est un consortium en fait de plusieurs entreprises. On a une entreprise qui s'appelle Newmont qui est américaine, nord-américaine pardon. On a la Banque mondiale qui fait partie de ce consortium. Et enfin une entreprise péruvienne qui s'appelle Buenaventura si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est vraiment un consortium de plusieurs multinationales extractivistes.
Par rapport, si je peux rajouter quelque chose par rapport au lien entre le climat et l'extraction minière, il y a eu un phénomène climatique récent. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes climatiques avec les réchauffements, avec les sécheresses dans un pays, trop d'eau dans un autre. Il y a eu des inondations dans le nord du Chili, où il y a beaucoup d'extractions minières dans les Andes, qui est une zone pratiquement désertique et qui ne voit pas souvent les pluies. Et la pluie a provoqué les inondations des piscines, entre guillemets, ce qu'on appelle piscines, c'est-à-dire les lieux où les entreprises minières déversent tous les poisons, toutes les tout ce qui les gêne, tout ce qui sert à l'extraction de l'or. Et tout ça a été balayé par l'inondation
et s'est déversé
jusqu'à la mer, est allé jusqu'à la mer et sur son passage a fait des dégâts environnementaux importants.
Et humains ?
Ah ben humains aussi, oui. Il y a eu des morts, depuis la mine et depuis... Voilà, parce qu'il y a tout un... Les travailleurs ne viennent pas avec leur famille parce que c'est dans des conditions difficiles, mais on amène des prostituées de Colombie, il y a des trafics de drogue qui sont liés à tout ça. Ces personnes-là ont souffert des dégâts des inondations, ça c'est sûr.
Vous avez des témoignages comme ça dans votre reportage sur ces ouvriers qui travaillent là-bas ?
Alors non, nous pas directement. En fait, une des problématiques auxquelles on a dû faire face au moment donc de faire notre reportage, c'est qu'en fait on avait donc souhaité interviewer des personnes vraiment de tous les horizons, vraiment sur toutes les thématiques et vraiment de toutes les classes sociales, et notamment des personnes qui sont en faveur de la mine et notamment en faveur d'un projet d'extension duquel je n'ai pas parlé mais qui est très important. La mine de Yanacocha a un projet d'extension qui s'appelle Conga, qui souhaite du coup s'étendre sur la région et du coup qui assécherait une trentaine de lacs qui sont sur cet espace-là. Et donc, on a vraiment une vraie tension réelle qui existe dans toute la région et dans tout le pays. Et pour revenir à ta question, du coup, ça a été extrêmement difficile, notamment de s'approcher de la mine, mais surtout d'aller interviewer des personnes qui travaillent dans la mine ou qui sont de près ou de loin liées ou en faveur de l'exploitation. Et ça a même quasiment été impossible, puisqu'en fait, du coup, on n'a pas de témoignages d'ouvriers ou de personnes de la mine.
Et encore moins de représentants des directions de la mine, c'est
voilà,
sûr.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'était impossible, en fait. Nos équipes au Pérou ont bien essayé de les contacter, etc. Mais c'est vraiment une thématique qui divise toute la population. Et donc, personne n'ose en fait parler, même s'ils ne sont pas travailleurs de la mine, ils n'osent pas parler.
Mais ce qu'on entend, c'est ceux qui s'organisent autour de les paysans, les gens qui s'organisent autour de la mine, parce qu'il y a des dégâts environnementaux.
Tout à fait.
Et les mouvements sont importants
Oui, tout à fait. En 2013, il y a eu des émeutes dans toute la ville de Cajamarca, avec des manifestations qui sont devenues qui ont été fortement réprimées et qui sont devenues parfois violentes et qui ont eu un impact très violent. Et ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Il y en a eu d'autres aussi dans le pays pour d'autres exploitations minières. Donc c'est assez violent. Et on le voit bien, moi je me suis baladée dans les rues de la ville, c'est extrêmement présent, les gens n'en parlent pas, mais on sent que c'est quelque chose de très très pesant et que le conflit n'est absolument pas solutionné pour le moment. Et il y a vraiment une sorte de paix latente, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et voilà, il y a des gens qui sont pour ou contre, mais personne n'ose parler. Et pour l'instant, le projet est en stand-by. On ne sait pas encore ce qui va se passer.
Mais il y a une répercussion internationale, parce que dans de nombreux pays, en France aussi en particulier, il y a des comités de solidarité avec Cajamarca qui donnent la parole aux habitants, aux membres des ce qu'on appelle les rondes paysannes, ceux qui font un peu la surveillance des lieux où les gens de la mine pourraient venir exproprier les gens. Et il y a eu la lutte en particulier d'une propriétaire, d'une petite propriétaire, Maxima.
Maxima Acuña de Chaupe, c'est ça, voilà. Exactement. Hein. Qui fait connaître énormément la thématique.
Elle ne veut pas s'en aller, elle.
Voilà, et qui ne veut pas s'en aller. Voilà, elle a dit qu'elle ne quitterait pas son territoire, sauf qu'elle est sur de l'or, tout simplement. Elle est posée sur de l'or. Et que du coup, Yanacocha fait pression, utilise tous les moyens, légaux ou illégaux, pour la déplacer. Et elle a dit qu'elle ne bougerait pas. Et ça fait, il y a énormément d'échos. Il y a beaucoup de films qui ont été faits à propos d'elle. Et notamment, je peux vous recommander de voir un film qui s'appelle Hija de la Laguna, la fille du lac.
Sur la page Facebook de La Terre sous nos pieds.
Voilà, vous pouvez le trouver soit sur la page Facebook de La Terre sous nos pieds, on a une page Facebook. Et sinon, il y a d'autres films aussi qui ont été faits toujours sur cette thématique-là. C'est quelque chose des pétitions aussi en ligne que vous pouvez signer. Voilà, elle est un petit peu le symbole de cette problématique.
Donc, vous avez compris, venez ce soir à la projection, donc à 19h, à la MJC Primol, à l'auditorium. C'est gratuit et même Marie-France nous a dit qu'il y aurait un buffet. Alors voilà, si vous avez faim, venez déguster ce sujet très, très politique. On va faire une nouvelle petite pause musicale avec une chanson qui s'appelle « A vita bella », donc « A belle vie ». Et donc la suite de la phrase, c'est « Pourquoi ne reviens-tu pas ?». C'est une tarentelle, c'est une musique traditionnelle du sud de l'Italie qui est interprétée par Lucila, j'ai perdu son nom, Lucila Galeazzi, qui est une chanteuse contemporaine qui essaye de retravailler entre les sons électriques et la musique traditionnelle. Bon là, c'est quand même assez... ça reste sur du traditionnel. La tarentelle, c'est une musique qui date du XVIIe siècle et on l'a vantée pour ses vertus thérapeutiques. Mais en fait, c'était plutôt un prétexte pour perpétuer les danses païennes dans l'Italie catholique... Voilà, donc on écoute.
Si è fatta mezzanotte, ma notte scura, scura. Si è fatta mezzanotte, dorme la luna.
Vous êtes sur Radio Kaléidoscope et vous écoutez l'émission Aura des rues. Nous venons d'écouter une tarentelle A vita bella, une chanson traditionnelle du sud de l'Italie. Et nous allons enchaîner sur l'interview d'Elisabeth Papazian, directrice du théâtre Prémol, que nous avions déjà commencé la semaine dernière. Marie-France, tu peux nous rappeler
oui,
un petit peu ?
Oui, la première partie de cette interview qu'on avait diffusée la semaine dernière, Elisabeth Papazian, Babette pour les gens du quartier, du village olympique, nous avait rappelé un peu l'esprit dans lequel elle avait pris en main ce théâtre. Ça fait 3 ans qu'elle est directrice du théâtre, avec un projet d'appropriation par les habitants du quartier de ce théâtre, d'un théâtre plutôt destiné, destiné à un public extérieur. Les gens qui vivaient à côté ne venaient pas au théâtre. Donc le défi, c'était que ce théâtre soit pour les habitants et notamment pour les compagnies qui venaient présenter des pièces de théâtre. Il y avait l'obligation de rester plusieurs semaines et pendant ce temps-là, des répétitions, des choses qui pouvaient se faire avec les habitants, des rencontres qu'on appelait moments privilégiés pouvaient se faire avec les compagnies, entre les compagnies et les habitants. Voilà, on en était arrivé à l'événement du 18 avril 2015, qui était l'incendie criminel, on peut le dire, du théâtre. Et donc, le théâtre est devenu inutilisable. Le toit a été refait depuis, mais les projets sont en cours pour une réfection. Et c'est de ça dont elle va nous parler. On avait vu la dernière fois que des spectacles, il y avait une mobilisation de toutes les habitants du quartier, de toutes les lieux culturels de Grenoble et des environs pour servir un peu de substitut aux locaux du théâtre Prémol pour tout ce qui était engagé. Mais en particulier, tout le travail qui était fait avec les écoles, la semaine des artistes en herbe, avoir lieu sur le quartier grâce auprès d'un chapiteau qui était resté sur le stade du village olympique, le stade de foot. Il n'était pas encore rénové à l'époque, donc tout avait pu se tenir là. Et elle nous répétera encore que le théâtre n'est pas mort, qu'il y a des projets. Et donc là, on va écouter quelles sont les perspectives de travail. Actuellement, puisque bien que l'équipement soit inutilisable en tant que tel. Voilà. On écoute Elisabeth Papazian.
Des ouvriers qui s'occupaient autour du théâtre, du toit, puisque c'est le toit qui avait.
Voilà, donc le théâtre est mis hors eau, c'est-à-dire qu'on a à nouveau la charpente, les tuiles, effectivement. L'espace est protégé. Qu'il y a des réunions de travail avec la municipalité et notre conseil d'administration pour réenvisager le futur théâtre Prémol et peut-être améliorer l'existant. Partir sur.
Il y a des plans déjà alors.
C'est pour l'instant qu'on est dans la réflexion. On rêve. On rêve parce que c'est important d'essayer de proposer non pas plus, mais mieux, parce que ce serait, je pense, pas raisonnable de faire des choses qui seraient démesurées, qui ne resteraient pas à l'échelle humaine. Pour nous, ce théâtre Prémol, c'est aussi cette dimension humaine. Donc, c'est pas faire plus grand, c'est de faire mieux avec un équipement qui permet de s'adresser à tous, d'améliorer l'accessibilité pour le milieu du handicap, etc. Donc, il y a une grosse réflexion autour de ça. Sans renoncer à l'exigence, parce que c'est aussi important que sur nos territoires, ce n'est pas parce que c'est un théâtre de quartier, implanté dans un quartier,
que la qualité
doit être moindre. Or, on va à contre-pied de ça, nous sommes très exigeants, tant sur la capacité d'accueil et les matériaux et ce qui sera mis en œuvre pour la reconstruction, mais également sur les projets qui seront aussi diffusés à l'intérieur de cet espace. On a cette réflexion, enfin on a en tout cas cette préoccupation de l'exigence nécessaire à ce territoire. Alors, il y a des engagements forts de reconstruction là-dessus, il n'y a pas de remise en cause. Après, il faut qu'on effectivement réfléchisse au plus près de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Il faut qu'on soit aussi conscient des coûts financiers de cette reconstruction.
On sait qu'il y a des assurances, mais j'imagine que c'est pas...
C'est jamais très simple. C'est jamais très simple. Et après, il y a la lourdeur des travaux. Soit les travaux peuvent être portés en interne à la ville, et c'est un certain délai. S'ils sont externalisés, les délais seront certainement plus longs, puisqu'il y a tout un process nécessaire, aux appels d'offres, etc. Oui.
On n'imagine pas que les habitants mettre la main à la pâte.
Je pense qu'il serait tout à fait partant. Mais il faut garantir un cadre sécuritaire, bien en termes de travaux, en termes de responsabilité. Enfin, là, c'est des choses qui nous dépassent. Nous, théâtre, vraiment, le conseil d'administration, c'est... Là, il y a... En plus, la charpente du théâtre Prémol est classée. C'est un site classé, c'est un ancien corps de ferme.
Oui, on est dans une zone patrimoniale, exactement. Dans le village olympique.
Exactement, voilà. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on a un cadre à respecter, des conformités, et on ne peut pas improviser dans ce domaine-là. Mais nous sommes toujours dans le faire, voilà, c'est important. On est vivant, on a échappé à quelque chose de dramatique. Et le fait d'être vivant, ça nous permet, comme je vous disais, de rêver, mais aussi d'agir et d'être à nouveau des acteurs de ce territoire, avec des complicités d'artistes, toujours.
Oui.
On
ne
peut pas faire sans eux. Avec des complicités de collectivités locales et territoriales, avec des complicités d'équipements culturels, ce qui nous permet effectivement d'être le théâtre Prémol en escale. Une réflexion va être portée pour la saison à venir sur le développement de projets artistiques dans nos murs. Parce que les localisations ne sont jamais simples.
Oui, j'imagine qu'il y a des transports,
Il y a de la mobilisation, du covoiturage. Oui. Être ici et ailleurs en même temps, ce n'est pas facile. Est-ce que le fait d'aller vers l'ailleurs fait sens aussi avec ce que l'on a porté jusqu'à maintenant? C'est-à-dire de faire venir des gens à l'intérieur de cet espace culturel. Donc si on éloigne l'objet culture, on a encore plus de difficultés à faire que les gens puissent nous suivre, puisqu'on éloigne, on les éloigne encore.
Ils ont suivi un peu.
Ils ont suivi, mais c'est compliqué.
C'est compliqué. Oui.
C'est compliqué. On a aussi des publics qui sont dans des quotidiens qui sont complexes. Et organiser une vie de famille, un déplacement par anticipation demeure des fois quelque chose de difficile. C'est plus facile d'aller au théâtre Prémol qui est à 20 mètres,
la porte à côté.
C'est à côté, on n'avait pas prévu d'y aller, puis finalement on est disponible, on peut y aller, que de dire le rendez-vous était à telle heure, donc quasiment une heure au préalable du démarrage du projet qui sera présenté, parce que la nécessité des covoiturages ou du départ collectif nécessite cette marge temporaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est plus complexe. Mais il y a aussi, au-delà de la complexité, c'est aussi la nécessité de faire vivre ici de la culture. Lorsque le théâtre rouvrira ses portes, je pense que nous aurons...
On a une échéance? Non.
Non, je ne
donne pas de date. Parce que c'est la question de tout le monde.
Bien sûr, mais c'est trop tôt pour l'instant.
Oui.
On est vraiment dans l'étude et dans la réflexion du devenir de cet espace. En revanche, on sait que lorsque le théâtre Prémol réouvrira ses portes, je pense que nombreuses seront les compagnies à vouloir exploiter cet espace nouvellement équipé, ouvert et autres. Notre préoccupation, c'est de ne pas abandonner les habitants et notre public sur ce laps de temps de la reconstruction. C'est pourquoi nous souhaitons maintenir dans nos murs des formes de culture présentées aux habitants.
Concrètement, oui.
Concrètement, c'est l'aménagement d'une salle dans la MJC Prémol, la salle qui se nomme l'auditorium, qui va être aménagée pour pouvoir accueillir des compagnies, donc des plus petites formes, hein, puisque le plateau n'a rien à voir avec...
C'est petit, oui.
Oui, c'est petit. Mais rien n'empêche de faire de la musique, de la voix, de la lecture de poésie, des monologues en théâtre. Voilà. Après, c'est effectivement, pareil, un nouveau défi à relever, mais toujours dans le même principe. On n'est pas dans une programmation où toutes les semaines, tous les 15 jours, on a une date qui se présente à l'auditorium. C'est vraiment arriver à travailler avec la compagnie dans nos murs, qu'elle puisse effectivement occuper cet espace, qu'on puisse créer le temps de leur occupation, des rencontres avec les habitants, avec les écoles, avec les foyers APF, toujours le maintien de ce que nous avons mis en œuvre jusqu'à maintenant, parce que je ne me vois pas abandonner pendant deux ou trois ans,
si c'est deux ou trois ans.
Ces démarches de médiation culturelle, et puis d'aller taper à la porte de nos habitants et de nos partenaires en disant dans trois ans, et si vous veniez au théâtre maintenant?
Comme consommateur, à ce moment-là.
Ce ne serait pas du tout respectueux du travail engagé par tout le monde, par les associations, par les partenaires, par les connexions avec les habitants.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les perspectives ou sur la participation des habitants? Non, on a fait un petit peu le tour, mais est-ce qu'il y a des
ateliers, comme je vous disais, des masterclass ou des ateliers. Donc là, on remet en place un atelier d'écriture avec Pascale Henry, parce qu'elle a été très sollicitée. Enfin, les expériences précédentes ont montré un réel attachement à cette forme de travail et à la fois à l'artiste. Je veux dire, les habitants sont en grand respect pour cet artiste et pour son travail. Donc, du coup, on nous avait demandé la possibilité de pouvoir refaire un atelier d'écriture avec Pascal Henry, chose qui est validée.
Qui elle démarre.
Tout le monde, c'est mélangé.
Il n'y a pas du tout de
sélection. Disons, vous savez écrire, vous aimez écrire, vous l'avez déjà fait, mais tout. On a 14 personnes à l'heure actuelle inscrites, tous les âges. Bon, 14 personnes, un homme. Mais voilà, tous les âges, toutes les catégories sociales. Des gens qui ont déjà rencontré Pascal, d'autres qui vont la découvrir. Il n'y a vraiment pas de sélection préalable, c'est vraiment ouvert à tous.
Parce qu'on a la richesse des doubles ou triples identités et cultures sur les quartiers,
on ne sait pas toujours
le voir, hein, mais c'est vrai.
Ah non, pour moi, pour être au cœur de ce territoire depuis plus de 20 ans, c'est un quartier mais qui est riche et où on apprend vraiment à aimer les gens tels qu'ils sont. Et oui, il y a une vraie force de cette diversité.
Il y a une identité forte sur le quartier, je crois, même les jeunes, certains, les trentenaires, les anciens loubards, ils ont un attachement au quartier.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fondements sur ce territoire, alors qui vit des choses qui peut être mouvementé également.
Ah oui, il ne faut pas se cacher la violence.
Après, on a fait le frais. Mais je crois qu'il y a aussi une maturité qui naît de ces territoires et qui naît de ces regards croisés aussi, de l'appréhension de l'autre, de comment je m'intéresse et je m'interroge sur qui est l'autre. Mais c'est porté, ça parle par l'ensemble des acteurs du territoire aussi. C'est quelque chose qui est défendu par la maison d'enfance, par le centre social. Enfin, vous voyez, tous les équipements associatifs ou institutionnels sont préoccupés par cette chose-là. Et c'est une conjugaison de forces qui fait que du coup le territoire devient aussi un socle solide.
Oui, c'est le souci qu'on a un petit peu avec l'émission Aura des rues, hein, de mélanger, de confronter. Voilà. Est-ce que la radio pourrait être un support de quelque utilité pour ce travail que vous faites? Est-ce qu'on peut imaginer des choses?
Alors, souci, déjà, si vous arrivez,
les débats éventuellement.
Voilà. Pour nous, le relais, faire entendre que le théâtre Prénol existe toujours, parce que souvent, mais il nous arrive de croiser des gens, de leur parler de la programmation en escale, et des événements qui se passent avec le théâtre Prénol, et de dire mais c'est pas le théâtre qui a brûlé, mais il est encore là. Oui, bien sûr qu'il est plus que jamais, il est là. Et donc on a besoin effectivement de ce relais d'informations, parce qu'il est nécessaire de montrer que ce quartier n'est pas en marge, et que le théâtre Prénol est toujours en action, avec des moyens différents, avec des formats différents, mais qu'il est toujours présent. Donc avec la radio, bien évidemment, pour nous, c'est un outil essentiel de communication sur le territoire, mais au-delà.
Au-delà, oui.
Au-delà, sur les ondes, au-delà.
Oui, parce que la radio, je ne sais pas si beaucoup de gens écoutent la radio encore maintenant, ou sur Internet, on peut écouter Radio Kaléidoscope, mais en podcast, on peut l'avoir sur le site du Crieur de la Villeneuve. Et petit à petit, on essaye de... Ça commence à se dire un peu de bouche à oreille, et... On espère, on a peu de moyens, mais on espère quand même que ça va être utile. C'est un peu l'objectif. Mais pour en revenir à l'image du quartier, c'est vrai que globalement, enfin moi, ça fait pas très longtemps que j'habite sur le quartier, mais les gens à l'extérieur ont un préjugé, une image un petit peu désastreuse du quartier.
Bien sûr.
Et ils s'étonnent.
On le vivait nous aussi avec le théâtre. Oui. On nous appelait en nous disant il y a un spectacle ce soir, est-ce que je peux venir égarer ma voiture? Là, c'est des choses bien évidemment qui sont dans la préoccupation de la population. Alors on n'est pas à l'index, je ne dirais pas qu'on est mis à l'index, mais en tout cas effectivement il y a des préjugés. C'est un territoire qui peut être anxiogène quand on ne le connaît pas. C'est effectivement des discours qui ont été tenus sur notre territoire qui ne mettaient pas à l'honneur. Donc c'est par le biais de la radio, peut-être multiplier les exemples de réussite, puisque quand on est au village olympique, on n'est pas voué à l'échec.
Voilà, donc c'était une interview réalisée donc dans le bureau d'Elisabeth Papazian, directrice du théâtre Prémol. Voilà, donc c'était la deuxième partie de l'interview qui avait été diffusée donc, la semaine dernière. On va se faire une petite pause musicale avec une nouvelle chanson de De André qui s'appelle « La balata dell'amore cieco o della vanità », qui veut dire « la balade de l'amour aveugle ou de la vanité ». On écoute.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Era il cuore, tra la 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 la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei, ridendo forte, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Voilà, donc c'était De André. Vous êtes toujours sur Aura des rues, Radio Kaléidoscope. Et on va enchaîner avec Antoine qui va nous parler du CROUS et de la réunion qu'il y a eu sur le projet autour du CROUS.
Alors rapidement, ça s'est passé jeudi dernier, jeudi 4. Et c'était une réunion autour du site du CROUS, donc c'est l'espace universitaire, notamment avec les logements étudiants, enfin les anciens logements étudiants et l'ancien restaurant universitaire. Et donc c'est un espace qui est vide maintenant sur le quartier. Il y a actuellement un bâtiment qui est occupé par des demandeurs d'asile depuis plus de 3 ans maintenant. Et on essaye de voir qu'est-ce qui peut être fait pour le quartier sur cet espace, en fait, qui est aussi une porte d'entrée sur le village olympique, à côté de la piscine, pour ceux qui se situent, pas loin de Grand Place, le Grand Carrefour. Et donc il y avait pas mal d'associations présentes, des habitants aussi, donc je vais en citer quelques-unes. Il y avait l'Alliance citoyenne, dont on a parlé tout à l'heure, il y avait l'Union de quartier, il y avait... Le CCI qui était représenté, la table de quartier aussi via l'Union de quartier, puisqu'ils font partie de la table de quartier. Il y avait Adams ADFE, qui est une structure d'insertion qui cherche à s'intégrer sur le quartier. Donc les ateliers populaires d'urbanisme aussi étaient représentés. Et il y avait surtout un étudiant de l'école d'architecture qui habite dans le Crous actuellement et qui a présenté son projet qu'il avait fait le semestre dernier. Et ça a été l'occasion de discuter de ce projet-là et à travers ça de pouvoir avancer sur le projet. Il y avait notamment des demandeurs d'asile qui étaient ici et l'association Les Habiles qui travaille sur l'habitat participatif. Et voilà, c'était jeudi dernier au Village Olympique.
D'accord, donc affaire à suivre. On va finir sur la rubrique des enfants de Madame Rutabaga. Et donc, ça s'appelle la rubrique de Monsieur Cheval. On écoute.
Ici présente la voix de Monsieur Cheval.
Bonjour, je suis dans chevalerie.fr.
Bonjour. Nous voulons vous... Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier parce que ça permet de voir du monde. Puis en même temps, ça permet d'aider les gens à se soigner. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme métier. J'aime bien ce métier parce qu'on voit du monde toute la journée, du coup on ne s'ennuie pas. Puis en même temps, on conseille les gens quand ils sont malades. Puis après, si on arrive à les aider à se soigner, du coup les gens ils sont contents et puis... Ça fait du bien de les aider.
Depuis combien de temps avez-vous ouvert ce magasin ?
Alors, c'est pas moi qui ai ouvert ce magasin, mais l'actuel patron de la pharmacie s'occupe de ce magasin depuis 3 ans. Mais avant que M. Mokhtari vienne s'installer ici, il y avait un autre pharmacien qui était là depuis peut-être 20 ou 30 ans.
Quels sont les jours où il y a plus de clients ?
Alors, on constate que le lundi, il y a nettement plus de monde que les autres jours.
Est-ce qu'il manque quelque chose sur la place des Géants ?
Bien, moi, je travaille ici depuis pas très longtemps, depuis 2-3 mois. Je sais pas, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Mais sinon, vous pouvez demander à mon collègue.
Parce que ça manque un peu de commerce, donc ils aimeraient peut-être bien... Je sais qu'à un moment avant, il y avait une boulangerie, maintenant il n'y en a plus, donc ils aimeraient bien peut-être une boulangerie, un bureau de tabac... Et peut-être un autre commerce d'alimentation, peut-être. Voilà, mais c'est plus les gens qui nous l'ont dit, quoi. Ah, les stylos, c'était un cadeau offert par le gérant. En général, c'est à peu près une fois par an et c'est pas systématique. Donc, c'est des cadeaux pour à peu près une fois par an pour les gens habitués, quoi.
D'accord. Merci. Ouais. Au revoir. On vient pour une radio,
oui.
Et on voudrait vous interroger quelques questions.
C'est quoi Osmos pour vous ?
Alors Osmos, c'est une association. Pour moi, c'est des aides pour les enfants. Il y a des adultes qui les aident un petit peu à faire des devoirs, à améliorer les difficultés un petit peu, voilà, et un peu stopper les lacunes. C'est une association de plusieurs bénévoles. Il n'y a pas que des aides aux devoirs. Il y a aussi d'autres activités comme un petit peu du jardinage. C'est des petites sorties qu'ils font avec des enfants.
Depuis combien de temps elle existe, cette association ?
Très 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 longtemps. Même le président de l'association faisait ses devoirs dans cette association. Alors je ne peux pas vous dire les dates exactes. Moi je suis novice, moi je suis là, enfin je l'ai connue le mois de septembre. Aussi par bouche à oreille, parce que je cherchais quelqu'un avec qui que mon fils partage un peu ses devoirs et ses difficultés, vu qu'avec moi, ça ne fonctionne pas toujours. En tous les cas, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, je sais que le président, il est maintenant papa.
Est-ce qu'il y a un autre endroit où il existe Osmose ou il n'y a que sur la place des Géants ?
Moi, malheureusement, je ne connais que cette association. Ça serait bien que ça se développe. Moi, je connais que ici. Moi, j'habite pas à Échirolles. J'habite pas ici. J'habite à Pont-de-Clé. Sur Pont-de-Clé, il n'y a pas ce jour d'association. Je viens le lundi après-midi. Enfin, lundi à partir de 4h30 et le vendredi. Et honnêtement, une nette amélioration sur le niveau scolaire de mon fils. Franchement, je suis satisfaite.
Et je peux vous demander, vous avez l'impression que ça marchait pas bien avec vous
Je dis pas que ça ne marche pas, mais à un moment donné, moi j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Alors je suis affrontée à la vieillesse, à la mort souvent. Alors des fois c'est vrai que je suis disponible et je suis apaisée. Alors ça va, ça passe bien. Et des fois ça vient des côtés de mon fils et de moi. Alors des fois eh ben il a envie de trouver sa maman plus que une maîtresse quoi. Et moi des fois j'ai envie de me poser après une longue journée de travail. J'aimerais bien que, je dis pas quelqu'un prend le relais, mais un petit coup de pouce. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, même avec mon aîné, avec les autres, ça se passe mieux qu'avec ses propres parents. Je suis un petit peu aussi femme seule, alors je fais beaucoup d'heures pour voilà, pour arriver à avoir un salaire correct. Voilà, malheureusement, ça me prend un peu de temps, un peu de, enfin, voilà, c'est un mélange.
Ici, on ne trouve pas les mots. Ici, on a le chocolat chaud. Venez tous. Ce soir, c'est gratuit. Sur la musique, des basses.
Boum, 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 boum.
Voilà, donc c'était la rubrique des enfants de Madame Rutabaga, qu'ils ont appelée la rubrique de Monsieur Cheval. Enfin, la voix de Monsieur Cheval. Et donc, ils nous ont fait deux interviews. Donc, vous avez entendu l'interview du pharmacien et d'une maman qui était à l'association Osmose. Voilà, donc ça a été déjà bien présenté.
À la Villeneuve.
À la Villeneuve. Donc, l'association Madame Rutabaga, c'est une association qui fait des ateliers de rue. Il y en a trois par semaine, un à la Place des Géants le vendredi de 16h à de 16h30 maintenant à 18h30 parce qu'on va repasser sur les horaires d'été. Un le samedi de 14h à 16h30 dans la crique nord de l'Arlequin, donc c'est proche de la Cordée, autour de l'anneau l'anneau de course là. De la piste de course. Et le troisième, c'est le vendredi midi au camp de la Bifurque. Voilà, au camp. Voilà, et donc vous pouvez les retrouver chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau. Ils
le 1er janvier, le jour de Noël.
Voilà, c'est ça. Alors, on va vous quitter sur cette dernière touche. Merci de nous avoir écoutés. C'était Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Et avec nous, aujourd'hui, il y avait Antoine, Marie-France, Clémentine, Benjamin et bien évidemment, Pato à la technique qui, sans lui, nous ne ferions pas un si beau travail. Merci Pato. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.